Souhaitez, Julia Kristeva, qu'on se rende chez Sophie de Closet, votre éditrice. Elle a 42 ans. Elle est donc PDG depuis quelques années des éditions Fayard. Elle a pris la suite d'Olivier Nora, qui lui-même a succédé à l'éditeur de Solzhenitsyn, entre autres, Claude Durand. Claude Durand, dont vous étiez une amie, je précise que vous publiez toujours chez Fayard. Nous avons gravi tous les deux, souvenez-vous, 5 étages à pied.
L'ascenseur
était en panne. Et c'est là-haut, tout en haut de ce bâtiment de la rue Montparnasse à Paris, que nous avons rencontré celle qui édite, entre autres, les mémoires de Madame Obama, les mémoires de Jane Birkin, ou qui poursuit l'édition, je le disais, de votre œuvre, Sophie de Closet.
Ce bureau, c'est mon bureau aujourd'hui, mais c'était le bureau de Claude Durand pendant des années.
Grand patron de chez Fayard, oui.
Qui a été le patron de chez Fayard et l'éditeur de nombreux auteurs, dont Julia, avec laquelle il a entretenu un compagnonnage littéraire, amical, extrêmement fort et puissant. Et vraiment, ça oblige de s'inscrire dans une relation et de modestement vraiment construire une suite quand on voit ce que ça a été de soutien sans faille, d'admiration, d'amitié, d'affection réciproque, d'attention extrêmement délicate. Je trouvais que ça avait un sens dans ce bureau qui est la continuité chez Fayard, puisqu'il y a eu Claude, Olivier Nora et puis aujourd'hui moi, de recevoir Julia, dont l'œuvre est extrêmement impressionnante et polymorphe.
Claude Durand, vous veillez de très près aux textes de vos écrivains. Comment travaillez-vous ?
Ce que j'essaie de faire toujours, c'est de me traiter comme un de mes collaborateurs. C'est-à-dire, je garde tous les... Oui, on sort à peu près 15-20 livres tous les mois. Je me garde toujours 2 à 3 livres dont je m'occupe personnellement, de façon à ne pas perdre ce contact avec le travail du texte, le rapport avec les auteurs. Autrement, je crois qu'un éditeur est fichu.
Au décès de Claude en 2015, un peu avant évidemment quand il était à l'hôpital, je lui avais envoyé une carte postale avec la photo de Colette qui dit, et 2 citations à Colette que j'aime beaucoup, « La mort n'est qu'une banale défaite, renaître n'est jamais au-dessus de mes forces ». Et j'espérais qu'il allait s'en sortir parce que sa présence a été extrêmement importante pour moi. Et j'ai connu, je n'ai pas été impliquée, j'étais jeune, mais j'ai connu et admiré son combat pour Solzhenitsyn.
C'est quoi votre métier, Sophie de Closet ?
C'est tellement difficile d'écrire. Enfin, moi, je pense que si on a le choix, on ne le fait pas. C'est solitaire. Ça vous met en jeu intimement avec la part refoulée de vous-même ou la part difficile. C'est envisager son rapport au monde et le travailler sans relâche et sans concession. Et donc, du coup, une fois que cette œuvre solitaire, difficile, avec des moments de jubilation, mais quand même globalement très difficile, est aboutie, vous êtes éditeur, vous recevez comme un cadeau et vous êtes parfois par le premier ou parmi les premiers lecteurs l'aboutissement de ce travail. Et ce travail très intime, votre rôle est d'en faire petit à petit, d'en déposséder l'auteur, ce qui est un processus quand même relativement violent et intrinsèquement anxiogène, de l'en déposséder pour en faire un objet public qui ensuite n'appartient plus totalement à son auteur. Et donc du coup, notre travail est d'accompagner ce mouvement-là et de faire ensuite qu'une fois qu'il est dépossédé et que c'est un objet public, qu'il rayonne le plus possible, tout en permettant à l'auteur d'exprimer ce qu'il a exprimé. Donc c'est vraiment ce rôle de passeur. Donc il faut être un peu géomètre, un peu saltimbanque, un peu joueur de casino, savoir exactement quelle est sa place face au texte. Et si jamais vous intervenez au-delà de la volonté de l'auteur sur le texte, vous n'êtes pas dans votre métier. Et au contraire, si vous êtes tellement impressionné et intimidé par des auteurs comme par exemple Julia, ce qui serait relativement normal, ce n'est pas une petite part de mégalo, et que du coup vous intervenez pas du tout et vous donnez pas votre avis, vous faites pas non plus votre travail de soutien aux auteurs. Et ensuite, c'est une entreprise qu'on appelle une maison. C'est quand même tout à fait singulier. Il y a des maisons de couture, il y a des maisons closes, il y a des maisons d'édition. C'est très particulier parce que c'est la maison des auteurs. Et puis par ailleurs, c'est une industrie, l'édition malgré tout, où on fait que des prototypes, que du sur-mesure. C'est peut-être en ça que le parallèle avec la maison de couture serait pertinent. Et c'est une industrie de la nouveauté. Donc du coup, si jamais on commence à raisonner comme peuvent raisonner des commerciaux, des financiers et aujourd'hui des algorithmes, à savoir par corrélation, ce qui a marché, c'est ça, donc ce qui doit marcher, ce sera ça. Et qu'on raisonne que comme ça, on est mort à très court terme, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à inventer des livres, des couvertures, des façons de faire qui pour l'instant n'ont pas été encore validées par le marché. Et parfois, on se plante, et on se plante, et dans ce cas-là, on en est mortifié pour l'auteur d'abord et pour nous. Mais parfois ça marche, et puis après, rétrospectivement, tout le monde a raison en disant « Ah bah bien sûr qu'il fallait faire une couverture jaune et le sortir en mai bah, !» On le voit bien, une fois que ça a marché, tout le monde est plus malin.
Sophie de Closet, comme tout PDG, digne de ce nom, est à la fois un capitaine d'industrie et quelqu'un qui s'occupe de sa maison. Ça vous convient, Julia Kristeva? Vous percevez les choses comme ça?
Moi, je suis heureuse d'être, en effet, d'avoir eu une maison. Et le mot de maison est très juste. J'ai eu la chance, dans ma longue histoire avec l'édition, de connaître quelques grands éditeurs français. J'avais toujours l'impression qu'en me parlant, ils pensaient à combien ça coûte. Et j'ai jamais eu cette impression avec Claude et avec Sophie. Et Sophie et a très bien signalé tout à l'heure combien elle est à l'écoute aussi du monde qui passe. J'avais une question en montant l'escalier, je me suis dit je vais lui poser ça. J'ai découvert, quand elle avait 6 ans, elle était interviewée sur Simone de Beauvoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait un entretien sur Simone de Beauvoir à 6 ans?
Non, en fait, Françoise Verny, qui était l'éditrice de mon père, François de Closet, avait, au début des années 80, entrepris une série d'émissions sur la deuxième chaîne, autour et avec Simone de Beauvoir, qui était réalisée par José Dayan. Et à un moment, dans une de ses émissions, elle cherchait des petites filles pour contredire ou valider le fameux aphorisme de Simone de Beauvoir, « On n'est pas femme, on le devient ». Et elles avaient trouvé une petite fille qui jouait avec des trains électriques, qui avait des salopettes, qui était un vrai garçon manqué, et elle cherchait une petite fille qui était de l'autre côté. Et donc un jour, j'étais en CP, ma mère m'a réveillée tôt, elle m'a mis un joli col en dentelle, elle m'a dit « Françoise va venir te poser des questions ». Et Françoise Verny et José Dayan sont arrivés dans ma chambre, donc moi... J'étais très contente, dans ma chambre toute rose, avec mon joli dessus de lit rose, joli col d'hôtel. Et elles m'ont posé des questions qui m'ont paru, vraiment, je m'en souviens, complètement débiles.
C'était quoi comme question?
C'était, est-ce que tu aurais préféré être un garçon plutôt qu'une fille? Consternation totale, ben non, enfin comment est-ce qu'on peut préférer être un garçon? Et est-ce que ton frère est traité différemment de toi? J'ai dit, mais par qui? D'où? Enfin, plus je collectionnais des photos, non mais j'étais... au top, moi, de tous les clichés. C'est-à-dire que ma chambre était rose, je collectionnais les photos de Marilyn Monroe et j'avais à peu près 30 Barbie. Donc, elle me fait parler des Barbie en me disant, tu trouves pas que les Barbie, tu dis, mais Barbie, elles sont juste trop belles. Marilyn Monroe, elle est magnifique. Enfin, je ne comprenais pas du tout. Je dis, mais les garçons, j'ai mis les garçons, ils jouent à la bagarre, ils s'intéressent pas du tout, nous, on se raconte des histoires. Enfin, vraiment, tout ça me paraissait absurde. Et je minaude. Et donc, du coup, elle, l'émission passe et tout. Moi, j'oublie complètement ce truc-là. Et puis, Françoise a publié un livre de mémoire qui s'appelle « Le plus beau métier du monde », un titre auquel je souscris totalement, et dans lequel elle raconte ça, parce qu'elle raconte qu'en fait, au montage, quand Simone de Beauvoir a vu cette séquence, elle a cru que c'était joué. C'est-à-dire, j'ai dit, aucune petite fille ne peut minauder à ce point-là et se satisfaire avec autant de jubilation autosatisfaite de son statut de petite fille. Et donc, elle a essayé de couper en disant, c'est pas vrai, vous l'avez fait jouer. Vous l'avez fait répéter. Et donc, Françoise a dû dire, non, aussi bizarre que ça puisse paraître, cet enfant est vraiment aussi caricatural qu'elle a l'air sur l'écran.
À 6 ans, vous ne vouliez pas être éditrice, Sophie de Closet? Même si vous connaissiez bien Françoise Verny et finalement, vous aviez approché le métier, sans le savoir peut-être?
Ma mère était critique littéraire, mon père écrivait des livres, donc du coup le monde était un livre, c'était vraiment l'objet le plus familier chez nous. Donc l'idée de construire ma vie d'une manière ou d'une autre autour des livres était une sorte de donnée. Une des joies, c'est la variété aujourd'hui de sujets, d'auteurs, de livres. On est des passagers transitoire de catalogues et d'œuvres qui vont durer et qui s'inscrivent et dont on sait que au-delà des 2 mois qui suivent leur parution, ces œuvres vont essaimer quelque part dans le monde, en France, dans les bibliothèques, mais qu'en tout cas, ils vont perdurer.
Elle est belle la définition de votre métier d'éditrice. Sophie de Closet, vous avez dit passager transitoire. Ça ferait un bon titre de livre, ça, pour vos mémoires dans 50 ans.
C'est vrai. Pas pour tout de suite, mais non, c'est vrai.
Faire une remarque un peu saugrenue, mais à écouter la manière dont Sophie de Closet est heureuse de vivre dans sa maison, dit-elle, avec ses auteurs, on se dit qu'elle n'a pas besoin d'une analyse. Julia Kristeva.
Écoutez, moi je suis toujours très séduite par la manière que Sophie a de sentir la langue française et là ce côté vibrant qui l'a séduit dans l'écriture et elle nous aide beaucoup. Mais elle est aussi, elle a dit, et heureusement c'est le cas de Fayard, c'est un catalogue très diversifié. Vous pouvez avoir une non-féministe comme elle, comme vous pouvez avoir Madame Obama ou moi-même, ou Marc Lavoine. Enfin, c'est quelque chose de très très différent. Et moi, je rends un vibrant hommage à Claude Durand, avec lequel j'ai commencé à fréquenter cette maison et qui a pris mon livre « Étrangers à nous-mêmes ». Et puisque cette question a été évoquée, on va y revenir sans doute en parlant de la maison des adolescents, il m'a beaucoup encouragée à dire ce que je sentais comme étrangère. Et c'est un livre finalement traduit dans beaucoup de langues, qui est presque un modèle de la pensée sur les étrangers à une époque où l'étrangeté n'était pas un créneau publicitaire. Ça commence par des affects justement. Étranger, rage étranglée au fond de ma gorge. Anges noirs qui brouillent leur transparence, etc. Et puis, je donne l'histoire de l'étranger dans l'histoire européenne, ça. Et ça se termine par Freud, qui reconnaît une inquiétante étrangeté en chacun de nous. Et le livre s'appelle « Étrangers à nous-mêmes ». Donc, c'est une invitation à ce que le lecteur retrouve ses étrangetés, ça veut dire ce qui ne colle pas à la norme, ce qui le rend différent et ce qui le fait jouir et souffrir en même temps, et qu'il essaye d'aller de l'avant et de vivre avec ça, et de trouver des langages à cela. Alors, est-ce que Sophie a besoin d'aller sur le divan? Il faut lui poser la question, oui. Mais peut-être qu'elle l'a déjà fait.
On va écouter du jazz, parce que je sais que vous écoutez à la maison Ella Fitzgerald, Billie Holiday,
des camarades. Genre de choses. Hein, oui.
Et Billie Holiday a chanté entre autres un tube, I'm a fool to want you, je suis une idiote de te vouloir. Et récemment, Camélia Jordana vient de reprendre ce tube en compagnie du pianiste Baptiste Trottignon. Je vous propose leur très belle version.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool. A kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Wrong. without you.
À la mosquée? Non. Ah bon? Pourquoi?
Oh, ça va, on peut parler d'autre chose?
Mais non, on peut pas parler d'autre chose. J'apprends que mon petit-fils et la jeune fille que j'ai vu grandir sont musulmans et pratiquants. Je m'interroge, c'est normal, non? Pourquoi tu vas pas à la mosquée? Et toi, Alex, tu vas à la mosquée?
Non.
Je préfère aller sur Internet, c'est plus complet.
Sur Internet?
Mmh. Pour étudier?
Pour étudier la religion?
Ouais, pour comprendre ce qui nous relie au monde, à la société dans laquelle on vit, on se rend compte qu'elle est pourrie.
Comment ça, pourrie?
Pourrie à cause du matérialisme, il n'y a plus d'idéal. Moi, je le vois où je travaille. Le soir des vieux, ça dénonce l'échec de notre civilisation.
Là, j'en apprends des choses ce soir.
Un extrait du dernier Téchiné avec Catherine Deneuve, L'adieu à la nuit, très beau film où l'on voit une grand-mère estomaquée par la conversion à l'islam de son petit-fils et de sa petite amie, et puis sa volonté de se radicaliser, elle va l'enfermer, le film est assez passionnant. Est-ce que vous rencontrez des cas comme celui-là, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, je le précise, chef de service à la Maison de Solène?
Et oui, alors à la maison de Solène, on a parlé de maison de couture, maison d'édition, oui. Maison de close,
vous
maison
aussi,
des adolescents.
Vous aussi, vous avez votre maison.
Et moi aussi, j'ai ma maison et où on accueille tous les adolescents et où on a d'ailleurs avec Julia un séminaire sur le besoin de croire, un séminaire public, et c'est parce que ces questions sont très importantes à tous les âges, mais tout particulièrement au moment de l'adolescence.
Alors, qui vient vous voir et qui les amène, ces adolescents, chez vous?
Alors, à la maison de Solène, tous les adolescents, quelles que soient leurs questions et leurs difficultés, peuvent venir. Pendant toute une période, nous avons accueilli des adolescents, des garçons et des filles, qui se radicalisaient, parce que le terme est tellement vague, mais en tous les cas, qui s'éprenaient de valeurs et d'envie de
partir faire
de
le djihad.
Oui, alors pas tous, mais tous en tous les cas modifiaient ce qui venait dans ce cadre-là, modifiaient leurs valeurs, leur rapport à la langue, aux croyances, on l'entendait dans l'extrait, dans leur univers concret. Hein, ils se mettaient, la plupart de ces jeunes gens qui se sont radicalisés, de toute culture, hein, et de toute religion, ne parlaient pas l'arabe, n'avaient pas accès aux textes de base, mais ils lisaient des mauvaises traductions sur Google. Et puis, ils étaient fascinés par la violence, par la guerre, avec toute l'excitation qui va avec.
Donc l'islam dans sa version vengeresse.
Dans sa version guerrière, oui, dans sa version d'une violence. Violence d'ailleurs qui s'exerçait d'abord sur eux-mêmes, hein, mais aussi sur leur rapport au monde et sur la manière dont ils envisageaient l'avenir. Quel avenir, où, avec qui, dans quelle langue, dans quel monde. Oui, nous avons eu ce moment où on a travaillé à comprendre pour chacun de ces adolescents qu'est-ce qui lui était arrivé? Comment s'était faite cette métamorphose, cette conversion, bien sûr, au sens large? Et à quel besoin ça correspondait? Donc, avec une vision qui est une vision où on prend au sérieux, malgré tout.
Oui, vous racontez ça très bien toutes les deux, Julia Kristeva et Marie-Rose Moreau, dans Grandir, c'est croire, qui paraît chez Bayard. Vous racontez d'abord qu'il y a beaucoup d'entretiens, il y en a au moins 3 avec eux. Vous les considérez, ce qu'ils n'ont pas forcément été précédemment. Et vous dites, en fait, ils se sentaient seuls, ils n'appartenaient plus à une communauté, ça marchait pas forcément à l'école. Et en allant sur Internet, ils se sont dit que peut-être se radicaliser, c'était à nouveau, ou pour la première fois, qui sait, appartenir à une communauté.
Oui, alors effectivement, la question du rapport à l'école et du rapport au savoir est très importante. Il y a quelques jeunes gens, en particulier des filles, qui, elles, avaient un rapport idéologique à cette radicalisation et avaient construisaient un système de valeurs, de nouvelles valeurs par rapport à ça. Mais la plupart, la majorité d'entre eux, c'était beaucoup plus des garçons que des filles, et en échec total par rapport. Certains d'ailleurs n'avaient même pas accès à la lecture et à l'écriture, et ils avaient. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est rentré en lien avec eux et qu'on a transformé leur devenir. Ils avaient une soif d'être reconnus, d'être inscrits, de pouvoir comprendre aussi le monde. Mais ils en avaient pas les moyens. Ils manquaient de liens. Et c'est vrai que cette solitude dans laquelle ils étaient, ils se retrouvaient, parce que malgré tout, ils ont cru qu'ils auraient une nouvelle communauté autour d'eux. Bien sûr, la plupart n'en ont pas retrouvé de communauté. Donc ils se retrouvaient dans une solitude, dans une errance identitaire, dans une errance d'affiliation absolument incroyable, qui, moi, me touchait beaucoup. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on fabrique de la violence.
Comment vous avez pu, je ne sais pas s'il faut employer ce terme, les soigner, ou en tout cas leur indiquer qu'il y avait un autre chemin que la radicalisation? Peut-être, Julia Kristeva, qu'est-ce qu'on dit à un adolescent qui pense comme ça?
Écoutez, moi je ne suis pas thérapeute à la maison des adolescents. Marie-Rose a eu la gentillesse de m'inviter pour que je transporte le séminaire que je faisais à l'université de Paris 7, qui s'intitule « Cet incroyable besoin de croire » dans sa maison, pour le personnel soignant. Et le personnel soignant expose souvent, dans certaines de nos séances, les rencontres avec les adolescents et qu'est-ce qu'ils font et comment ils répondent. Et on s'est rendu compte, et Marie-Rose la première, que beaucoup des intervenants ne connaissaient pas l'alchimie de la psyché adolescente. Pas assez, toujours pas assez, pas suffisamment. Et la place que prend dans cette alchimie le besoin d'investir quelqu'un, de s'ouvrir des perspectives, d'adhérer à une communauté. Ce que j'appelle, moi, le besoin de croire anthropologique, pré-religieux et constitutif de l'humain. Si vous ne croyez pas au fait que votre parole peut me toucher, cher Vincent Jones, vous ne ferez pas ce métier, moi ou d'autres, mais vous croyez à votre capacité de faire sens, et autour d'un micro en particulier. Et à partir de là, vous posez des questions, vous vous mettez en question, etc. Mais même le plus grand savant, pour faire ses recherches par l'interrogation et la déconstruction, a besoin d'y croire. Donc, avec les intervenants, les gens qui sont au contact de ces adolescents, nous discutons de quelque chose de plus général. Moi, j'ai eu une clinique où il y a des enfants et des adolescents qui ne sont pas radicalisés, mais qui ont besoin d'investir, qui ont besoin de croire. Nous invitons aussi des représentants de différentes religions, parce que figurez-vous qu'il peut y avoir un adolescent, quand on l'envoie en thérapie chez Monsieur Cohen, il ne veut pas y aller, parce qu'il s'appelle Mohamed. Donc, il faudrait faire apprendre aussi à ces adolescents la diversité des religions, etc. Et c'est une équipe qui est très importante dans l'approche de Marie-Rose. C'est pas seulement son affinité qui lui permet de conduire les étudiants vers l'avenir et dans un temps qui n'est pas celui de la mort et de l'explosion et des coupeurs de tête, mais qui est un temps de construction. Cette équipe est une équipe interreligieuse, interethnique, mixte, d'hommes et des femmes, et l'adolescent qui vient là se sent dans une métafamille recomposée qui a confiance en lui et dans laquelle il va avoir confiance.
Marie-Rose,
et c'est à partir de là que nous continuons à travailler.
Dit notamment dans ce livre que vous signez à quatre mains, Grandir, c'est croire, que souvent on dit aux jeunes, tu vas faire du sport et puis ça ira mieux, et vous dites, il y a beaucoup d'autres choses à faire, on peut les faire lire, on peut les faire relire, on peut les mettre au slam, hein. On peut leur dire, tu vas apprendre la cuisine, la musique, la menuiserie, il y a des possible, vous ne fermez aucune porte, et je vous trouve assez optimiste d'ailleurs, hein. Il y a une possibilité de leur faire découvrir qu'ils peuvent croire à autre chose, et même à la République. Liberté, égalité, fraternité, dites-vous.
Fraternité, bien sûr, oui. La première idée, c'est que nous croyons dans les possibilités des adolescents, nous croyons dans leurs compétences, nous croyons dans leurs idéaux, nous croyons dans leurs possibles. Et effectivement, une des choses par lesquelles passent tous ces adolescents, mais quelle que soit la souffrance qu'ils traversent, la question de la radicalisation, la question, vous parliez tout à l'heure de la question de l'anorexie, la question de la dépression, c'est de pouvoir expérimenter, d'abord qu'on croit en eux, on croit dans leur être, on croit dans la possibilité pour eux de créer un monde, d'ailleurs de créer un monde meilleur que celui qu'on est en train de leur transmettre. Vous disiez optimiste. Non, en réalité, c'est j'allais dire réaliste,
oui, oui.
Mais réaliste au sens de Il faut rendre possible des choses qu'effectivement, parfois, ni la société, ni même parfois les familles, ou même à l'école, ces possibilités-là sont invisibles. Mais on fait aussi bien du slam que de la poésie ou des études de textes.
Vous pourriez faire venir notre traducteur qui travaillerait
exactement.
Avec des jeunes
adolescents. Mais avec régulièrement, plus que plaisir.
Et ben,
mais vraiment.
Avec plaisir,
vraiment.
Je vais vous inviter. Et nous travaillons aussi avec des traducteurs, puisque nous travaillons avec des familles de toutes les langues. Alors, c'est des traducteurs du langage oral, mais quel plaisir de faire cette traduction. Et nous traduisons des choses complexes, puisqu'il s'agit de traduire des difficultés, des souffrances et des possibles. Hein, c'est cette double polarité.
Je vais vous demander une parole de conclusion, Julia Kristeva, s'il vous plaît.
Oui, mais je sais que nous approchons de la fin, mais je voulais absolument qu'on pense en quoi notre intervention, en tout cas ma conception, et je pense celle de Marie-Rose, est différente de celle qu'on pratique dans les banlieues ou ailleurs, en donnant du slam, de la boxe, du sport, etc. On n'a pas besoin de nous pour donner cette issue-là à l'adolescent. Nous, on leur donne du langage. C'est-à-dire, vous pouvez parler, vous avez une puberté perturbée, vous ne savez pas si vous êtes homme, si vous êtes femme, si vous aimez, si vous n'aimez pas, vous voulez vous tuer, vous voulez... Parlons-en, je crois à votre parole. Et à partir de là, se crée une possibilité de mettre en langue la souffrance.
Pour en savoir encore plus sur le travail de Marie-Rose Moreau et aussi l'apport de Julia Kristeva, vous lisez « Grandir, c'est croire », ça paraît fin février chez Bayard. Et pour mieux connaître encore Julia Kristeva, vous lisez ses livres si vous souhaitez, bien sûr, il y en a beaucoup, il y en a plus d'une trentaine. Et il y a cette, on va pas dire biographie, c'est un livre de mémoire, un carnet de route, dit Julia Kristeva, écrit avec l'aide de Samuel Doc, qui s'intitule
« Je me voyage ».
Merci d'avoir été avec nous, Samuel Doc.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Bon retour, André Markovitch. Bonne traduction au pluriel, j'espère. Et travaillez bien, Marie-Rose Moreau.
Merci
beaucoup d'avoir été l'invité du Grand Atelier, Julia Kristeva.
Merci à vous.
Marco Mutel a réalisé cette émission. Karen D, Fanny Leroy m'ont aidé à la préparer. Thierry Dupin programme la musique. Et Tiffany Battistel était à la technique. Les nouvelles du Grand Atelier sont sur la page Facebook de l'émission. Elle vous attend. Mathieu Conquet se tient prêt juste après les infos à vous présenter et je remets le son. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec le fantôme de Serge Gainsbourg. Bonne fin d'après-midi et bonne semaine.